Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Mireille Bédard qui vient nous parler du Recovery College. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet sera la nostalgie. Notre collaborateur Bernard Saunier est aussi des nôtres. Il vient nous parler pour sa part d'un forum adulte et santé mentale auquel il a participé récemment. Alors, tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. On commence dans quelques instants avec la chanson d'Émile Bilodeau qui s'intitule « Robin des bois ». Vous écoutez Folie Douce, émission numéro 797.
J'en vis ceux qui ont des arbalètes, car ils se démarquent à force de viser droit. Parce qu'eux autres, ils sont bien moins éparpillés. C'est pas de ma faute si j'ai plein de flèches à tirer. S'il faut l'envoyer dans le nez à chaque fois, à trop penser qu'on n'a pas le droit. Viennent le stress et la peur, et alors le bonheur nous glisse entre les doigts. Et la flèche rate la cible et passe tout droit. Avec moi, puis après tout, un petit congé, ça serait pas bête. Peut-être qu'un break pourrait m'aider à mieux viser. Il faut du temps, j'en ai trop en dedans. J'ai l'impression que la dépression s'en vient vers moi. J'suis pas dans bonne profession, j'suis pas comme Robin des Bois. Bon marché, j'ai toujours rêvé d'une épée, mais moi j'ai pas le droit, puisque je suis pas fils de roi. Eux autres y ont tout eu depuis le début. La honte, avoir pu, j'y aurais botté le cul. Je sais que le jour va arriver où à mon tour je serai chevalier, et à ce moment-là. Tout le temps dans le temps, mais d'ici là, je sais que j'ai pas le choix. Mais d'ici là, je ferai ce qu'on attend de moi. C'est archi top, être un archer poche. C'est assez rough, mais trop haut souvent. J'ai beau faire semblant, mais j'ai pas le goût d'être avec. Et après tout, un petit congé, ça serait pas bête. Peut-être qu'un break pourrait m'aider à mieux viser. Il me faut du temps, j'en ai trop en dedans. J'ai l'impression que la dépression s'en vient vers moi. J'suis pas dans bonne profession, j'suis pas comme Robin des Bois.
Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie Douce.
J'ai le plaisir d'accueillir notre invitée, Mireille Bédard. Bonjour Mireille.
Bonjour Yvan.
Bonjour, tu nous as rendu visite il n'y a pas longtemps, donc à l'émission Folie Douce. Tu nous as parlé entre autres de ton livre que tu avais, qui est toujours disponible, que tu as écrit, qui s'intitule « Vaincre la dépression » et en sous-titre « L'estime de soi au cœur du rétablissement ». D'ailleurs, les gens qui veulent en savoir plus, je pense qu'ils peuvent aller voir les infos sur le livre. Je pense que
oui, il y a un site web dédié au livre. Adieu dépression sans accent en un seul mot.com.
Et tu fais même un, il n'y a pas une capsule même audio-vidéo?
Oui, c'est ça? Alors je fais un témoignage vidéo. Il y a des ressources qui sont écrites là. Il y a des résumés du livre. Il y a des résumés de chapitres. Ouais. Il y a la préface de la psychiatre Suzanne Lamar qui a écrit la préface de mon livre. Alors il y a toutes sortes d'informations.
Donc on peut aller voir ça, adieudépression.com.
Oui.
Merci d'être avec nous encore une fois. Tu nous as parlé la dernière fois de ce livre-là. Tu nous as parlé de ton implication à l'organisme Le Revivre, là, avec les ateliers. Mais cette fois-ci, on veut parler avec toi d'un super projet. C'est un projet nouveau. C'est quelque chose d'assez nouveau. C'est le Recovery College qui s'en vient au Québec, en fait, qui va s'établir au Québec. Comment on peut décrire le Recovery College?
Les Recovery College, en fait, c'est né en Angleterre. Ouais. On devine un peu avec le nom, mais c'est ça. Le premier Recovery College, il a été créé, établi en Angleterre 2010-2011 à peu près. Et en fait, c'est parti de gens qui étaient en santé mentale, autant des gens qui étaient intervenants, tout ça, que des gens qui étaient des usagers. Et l'idée a été de créer un lieu d'éducation au rétablissement, à la santé mentale. Donc, on voulait que ce lieu-là soit à l'extérieur d'un milieu hospitalier, qu'il soit dans la communauté, soit carrément dans une annexe d'un collège, justement, ou dans un organisme communautaire, ou en tout cas un lieu dans la cité, là, pour que ça soit vraiment, on soit intégré dans la société, puis qu'on soit pas... moi, je dirais qu'une des grandes particularités de cet organisme-là, cette idée-là, c'est de vraiment co-construire tout ce qui est tout ce qui concerne là les cours, la philosophie, tout ça. C'est toujours appuyé sur la co-construction avec des gens qui connaissent des problèmes de santé mentale ou qui en ont connu, et des gens qui sont des intervenants ou autres. Et aussi que les cours soient co-animés toujours par une personne qui a un savoir expérientiel, qui a eu l'expérience de la maladie, et une autre personne qui a un savoir clinique ou théorique ou autre. Et ce qui est important aussi, c'est que, bon, on va dire, des fois, les gens vont penser que, oui, mais il y a des, ben justement, comme Revivre, bon, il y a des ateliers de soutien à l'autogestion, tout ça. Mais c'est un peu ça la particularité de cette idée de Recovery College, de collège de rétablissement, si on le traduit littéralement. C'est que les gens vont là, ça peut être des gens qui ont eu ou ont des problèmes de santé mentale, ça peut être des proches, des membres de l'entourage, ça peut être des intervenants, des gestionnaires, un étudiant, un citoyen qui veut en savoir plus. Alors, il y a un répertoire là, de cours qu'on peut suivre, comme quand on va au collège, et il y a des gens qui vont vous aider à l'orienter, la personne, puis à dire, moi, j'aimerais ça faire un atelier, un cours sur comment composer avec ma bipolarité, ou moi, sur l'estime de soi, ou sur ma médication, ou sur c'est quoi le rétablissement.
Ouais.
Alors,
Donc, d'après toi, pourquoi en Angleterre, est-ce que tu sais pourquoi ils ont mis ça en place? Est-ce qu'il y avait un manque peut-être d'informations ou de...
En fait, c'est ça. C'est que beaucoup de gens... C'est que le problème, entre autres, pour les gens qui vivent des problèmes de santé mentale, comme moi, j'en ai eu une dépression plus qu'une même, c'est que les ressources, il y en a, mais souvent, ils ne savent pas où c'est, mais c'est pas tout à fait ce qu'ils veulent nécessairement. Et le fait que ça soit de l'éducation, ben ça, on s'en va dans un autre... dans une autre sphère, parce que souvent, une fois qu'on est étiqueté, hein, la stigmatisation, t'es étiqueté, ah, ça, c'est un bipolaire, ah, oui, c'est une schizophrène, puis tu sais, on a, comme dit le livre, je ne suis pas une maladie, je suis une personne, alors, comme Luc Vigneault.
Ouais.
Alors, on va là, on est un étudiant, et tout le monde est égal, et tout le monde est un étudiant. Donc, quand tu suis les cours, tu peux être avec une personne qui est un intervenant, mais tu ne le sauras pas nécessairement. Ce n'est pas écrit nulle part. Là.
C'est ça qui est la beauté, c'est ça.
C'est la mixité.
Il n'y a pas de classe ou il n'y a pas d'apparence de dire un tel, c'est un médecin ou une, peu importe, c'est un professionnel de la santé.
On est tous des étudiants.
Ouais.
Et on va tous là pour étudier, apprendre des choses sur ce qui concerne le rétablissement, la santé mentale, at large. Donc, selon nos désirs de qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'aiderait. Alors, ça ne sera pas les mêmes raisons. Une personne qui a, par exemple, vécu une dépression, puis une autre personne qui va être membre de l'entourage, et ils vont être dans un cours sur mettons, la mindfulness, pleine conscience. Ils ne seront pas là pour les mêmes raisons au départ, mais ils ont tous deux envie d'en savoir plus sur ça et de l'utiliser, mettons, la pleine conscience, la pratiquer.
Ouais.
Alors, ça amène à d'autres types de relations avec les gens et ça déstigmatise ceux qui sont atteints d'une maladie parce que c'est pas, il n'y a aucunement d'identification. Quand tu vas t'inscrire, tu ne t'inscris pas en tant que patient. Tu t'inscris en tant que Yvan, en tant que Mireille.
C'est ça. Autant les gens, les responsables quoi, de l'endroit, autant les autres participants, les autres étudiants fait, qui sont là, il n'y a personne qui sait vraiment. Tu as un intérêt pour la question, tout simplement. Puis,
voilà, tu veux apprendre, tu veux t'éduquer.
Quel modèle on veut? Est-ce qu'on commence petit? Est-ce qu'on veut que ça devienne gros? Parce qu'on parle, c'est un peu un collège, dans le fond. Oui. Est-ce que tu sais un peu...
En fait, je sais qu'en Angleterre, eux, ça a été un succès effrayant et en l'espace de quelques années, ils sont rendus à une quarantaine de Recovery College. Oui. Mais nous, on essayait vraiment d'être le plus fidèle possible au modèle Recovery College, donc tout ce que je viens de parler, mais de l'adapter au Québec, évidemment. Mais on veut respecter le modèle de base qui est la co-construction, co-animation, cette philosophie-là. Dans un lieu, dans la communauté, pas dans un milieu hospitalier. On est tous des étudiants. On va là pour apprendre. Et c'est de la pédagogie active. Alors, c'est des savoirs enrichis, savoirs expérientiels, savoirs cliniques, savoirs théoriques. Il y a une chaire de recherche qui est... C'est Catherine Briand, qui est la responsable de la doctorante et qui mène cette chaire de recherche-là qui va être alliée à l'implantation, Et on a des sites différents. Alors, un site à Montréal qui est lié avec le Collège Maisonneuve. Il y a une certaine entente, mais tout ça est en train de se préciser.
Ouais.
À Trois-Rivières, Drummondville...
Donc, déjà, on veut peut-être en implanter plusieurs. C'est pas un seul. On veut vraiment essayer
déjà de... Oui. Pour avoir, parce que les gens, à cause la chaire de recherche étant à Trois-Rivières, il y a des gens qui sont impliqués dans le projet, qui sont étudiants à Trois-Rivières, ou l'Université du Québec à Trois-Rivières a un campus à Drummondville, c'est pour ça, Drummondville. Mm-hmm. Montréal, bien sûr, parce que c'est aussi le centre d'études de réadaptation établissement Catherine Briand qui a fondé ce centre-là, qui, elle, est comme la tête pensante, la dirigeante, mais c'est multi-partenariat. Alors ça, il faut que je le dise, c'est important. C'est Recovery College, même en Angleterre. C'est toujours des 2, 3, 4 partenaires, une fondation, un organisme communautaire, un autre type d'entreprise. Alors c'est vraiment...
Donc, ça permet peut-être d'avoir, au départ même, tu sais, dans le fond, la façon de penser des choses, c'est d'être justement plusieurs types de
savoir, de sources, d'expérience, exactement. Donc, partenariat. Et celui pour le Québec, il y a, je ne sais plus combien de partenaires, mais il y en a vraiment plusieurs, peut-être une vingtaine en tout.
Ouais.
Oui. Et des gens, justement, dans le réseau communautaire, des fois dans le réseau hospitalier, toutes sortes de réseaux qui sont là et qui fondations et qui sont intéressés par le projet. Et évidemment, il faut trouver un financement. Donc, il y a ça aussi, le partenariat du financement. Alors, c'est tout ça qui est... C'est quand même assez...
C'est un beau projet, mais comment est venue ton implication? Comment tu t'es retrouvée à participer? C'est un super beau projet.
Oui, en fait, je suis assez privilégiée parce que depuis 2014, je suis impliquée au Centre d'études de réadaptation, rétablissement, insertion sociale, qui est... En fait, dans le centre de recherche de l'Institut universitaire Santé mentale Montréal, j'ai fait plusieurs projets. Un projet avec le Centre national d'excellence en santé mentale. On a créé une plateforme web qui est vraiment avec plein de dossiers très intéressants, des vidéos, des conférences. Et Catherine et Myra Piat et d'autres personnes avaient pensé que ce serait intéressant. Ça faisait un moment qu'ils y pensaient. Puis moi, j'ai été invitée. On est allé une délégation de 5-6 personnes de différents milieux et on est allé visiter des Recovery College.
Okay.
En Angleterre. Et moi, j'étais invitée en tant que, justement, quelqu'un qui détient un savoir expérientiel.
Ouais.
Je représentais ça. Et j'ai trouvé tout de suite le projet super intéressant. Déjà, même avant que j'y voie sur place, je lisais, puis je disais aux gens, aux fondateurs, j'ai dit « It's a revolution. » J'étais vraiment emballée. Et effectivement, en visitant, puis en regardant qu'est-ce que ça apporte aux gens, j'ai vu toute la... tout le potentiel. Et j'ai dit, waouh, oui, moi, je suis embarquée là.
On a intérêt souvent à s'inspirer de, autant d'autres pays s'inspirent de nous que nous. Ça peut être intéressant. T'sais, on entend souvent des belles choses qui arrivent en Angleterre, des fois aux États-Unis, des fois en Italie, ailleurs. Fait que c'est un modèle probablement qui s'implante bien avec notre type de société, puis notre type de. Tu sais, nos services aussi sont peut-être faits pour bien recevoir ce genre de collège-là ici.
Oui, puis c'est, je pense que c'est. Parce que maintenant, ça s'est rendu. Il y en a en Australie, au Japon, en France, ils ont commencé. Ça fait vraiment des petits là dans ouais. Ça se propage, c'est une belle une belle épidémie
ouais.
et nous au Québec ben oui tout à fait il faut avoir cette ouverture là je pense hein. Puis je pense qu'au Québec une de nos forces c'est qu'on est très ouvert, on est très souple, on s'adapte et puis on aime la nouveauté hein. On a un esprit assez novateur je pense.
On est très créatif, on est prêt à essayer des choses qui sortent de l'ordinaire.
Exactement.
Mireille, à la fin de ces études là est-ce qu'on entrevoit un certificat, un diplôme quelconque?
En fait, il y a un genre de certificat de diplôme, disons, si on peut dire, c'est pas un diplôme comme qui va t'amener au collège, je parle de collège, d'université, ouais. Mais c'est quand même pour reconnaître que tu as acquis ça, ce savoir-là, ouais. Ces compétences-là. Ouais. Et donc, quand tu as fini une session ou quelque chose, on célèbre ça. Eux autres, on souligne un processus de... Oui. Absolument.
C'est très intéressant. Comment on peut faire pour trouver l'information sur ça? Je pense que tu peux nous expliquer.
En fait,
comment.
Le site, même pour le Recovery College, n'est pas encore en fonction. Là. Ça va venir éventuellement parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, mais il y a un dossier sur le sujet qui est sur le site web du CERIS dont je parlais, le CERRIS, le CERIS, Centre d'études, réadaptation, rétablissement, insertion sociale. Et puis, c'est en train de migrer ça vers le Centre national d'excellence en santé mentale, le site du Centre national d'excellence en santé, le CNESM. Mais c'est en train de s'en aller sur ce site-là. C'est des fusions qui se font.
Ouais.
Mais on a plein de dossiers. Et un des dossiers, c'est le Recovery College.
Donc, en cherchant, par exemple, sur Internet, CERIS et Recovery
ouais,
College,
peut-être,
ça
oui.
pourrait être ça.
Oui.
On va sûrement avoir la bonne...
Oui, exactement, pour les mots-clés, oui.
C'est
oui.
ça, c'est vraiment intéressant.
Oui.
Peut-être que tu viendras nous en parler.
Ben oui, parce que là, on va être dans vraiment la réalité
ouais.
et on va savoir comment ça se passe ici, comment ça s'adapte et comment ça se passe vraiment.
Oui, exactement.
Là.
Non, c'est ouais. fort intéressant. C'est un beau projet. Merci ouais. beaucoup, Mireille Bédard, d'avoir
plaisir.
Été des nôtres. C'était vraiment intéressant. Puis à une prochaine.
Merci, Yvan.
Au revoir.
Au revoir.
J'essaye de tout et tout tombe à côté. T'encaisses les coups, tu veux plus m'en donner. Moi je trépigne un peu, je me ridiculise. Je te dis si tu veux, tu peux faire ta valise.
Plus les chemises, j'aurais dû y penser avant.
vais pas partir vraiment, pas plus que toi. Tu décides pas de changer ma vie sans me demander mon avis, je suis pas d'accord. Moi je t'aime encore, et puis je sais pas faire les coups durs amoureux. Pareil que c'est l'enfer, en plus il pleut. Tu trouves ça normal, un coup pareil, dans cette nuit sans étoiles, dans cette ville sans soleil. Mais tu peux pas faire ça, tu sais plus ce que tu dis. Allez assieds-toi, reprends tes esprits, abandonne les gens comme ça, n'importe quoi. Tu veux partir, ça me va, je pars avec toi.
Mais elle a fait ma valise, je suis prête.
Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio.
C'est maintenant le moment du bloc espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, on parle de nostalgie. Tu ne vas pas nous faire pleurer, j'espère?
J'espère que non. Mais j'espère écoute, que non.
La nostalgie peut être positif et négatif. Là.
Oui,
on,
c'est
on
ça.
On l'a déjà dit. Mais...
Oui, ben en fait, j'ai pris ça sur Internet, comme d'habitude, sur un site qui s'appelle... Oureka, c'est-à-dire ça s'appelle O-O-R-E-K-A, et c'est un site web français qui met à la disposition du public du contenu et des conseils créés par des experts sur des sujets du quotidien et de la vie pratique.
C'est bien Oureka, c'est pas Eureka, non, ça ressemble à Eureka. Mais...
C'est, ben, j'imagine que ça se prononce Oureka.
Oureka. Ouais. Ouais.
Alors, c'est rédigé par des auteurs spécialisés en groupe.
Ouais.
Alors, on nous dit en général, la nostalgie se manifeste lors d'un rappel mental ou sensoriel vis-à-vis d'un souvenir, d'un lieu ou d'une personne. Dans certains cas, elle s'accompagne d'une tristesse liée à des choses passées, manquées ou échouées. La nostalgie n'est pas un sentiment intense qui engendre une forte tristesse. Elle présente donc de nombreux bienfaits et envoie un message à celui qui la ressent. Et ce message peut être de plusieurs natures. Ça peut indiquer un manque ou un besoin sur le plan affectif. Ça peut mettre à jour des souvenirs en lien avec son enfance ou avec son pays. Ça peut indiquer un besoin de repos ou d'activité en cas de nostalgie des vacances. C'est normal, si tu penses aux vacances...
Non, c'est sûr, on peut devenir nostalgique assez vite.
Oui, mais c'est peut-être parce que t'es fatigué, au fond.
Ouais.
Et ça peut aussi exprimer le besoin de communiquer avec les autres, d'avoir des relations sociales. La nostalgie a de nombreuses applications à tout âge et à tout moment de la vie. Chez les personnes âgées, il peut s'agir du regret du passé, du manque de ceux qui sont partis et de ce qui n'a pas été réalisé. À tout âge, il peut s'agir de la nostalgie de l'enfance, dont on parle souvent, ou de périodes de la vie plus heureuses. Pour certains, il peut s'agir de la nostalgie d'un pays, d'une ville ou d'une maison. C'est
ouais.
Des fois, la maison où tu as grandi.
Oui, oui. Ou des nouveaux arrivants qui s'ennuient d'un peu de, ouais. des bons moments qu'ils ont passés dans leur pays d'origine, ouais. Des choses comme ça. Ouais.
D'autres cas aussi, d'autres ont la nostalgie des vacances, comme j'ai dit tantôt,
ouais.
Ou des voyages. La nostalgie apparaît généralement à l'occasion de rappels sensoriels, c'est-à-dire visuels, auditifs, olfactifs, des fois une odeur. Puis nous ramener dans le passé quelque chose que...
Et les chansons, souvent, tu sais, les chansons oui. D'une certaine époque peuvent nous rappeler plein de souvenirs.
Oui, ou ça peut être quelque chose qu'on goûte aussi,
ouais.
un aliment quelconque.
Ouais.
Regarder les photographies, revenir dans une ancienne maison, écouter une chanson, comme tu dis, tu vois, tu me devances,
ben oui, c'est toujours. Ça.
Ou déguster un plat.
Ouais.
Et en terminant, on nous dit, ce qui est bon à savoir, c'est qu'en psychiatrie et en psychologie, la nostalgie et surtout la tristesse qui l'accompagne, si elle envahit le quotidien, peut évoluer vers une dépression ou une mélancolie.
Ouais.
Dans ce cas, il s'agit d'une véritable souffrance psychologique et d'une maladie mentale qui nécessite une prise en charge spécialisée par un psychologue ou un psychiatre. Là, on parle vraiment... Là, de nostalgie très, très triste.
Oui, parce qu'il y a de la... Tu sais, on avait un invité il n'y a pas si longtemps à l'émission qui nous disait que ça dépend toujours comment on s'en sert. Tu sais, des fois, ça peut être motivateur, ça peut ouais. nous donner, si tu veux, un peu de la bonne humeur même. Tu sais, il y a de la nostalgie qui ouais. nous rend... tu sais, qui nous donne de l'énergie parce qu'on pense à des bons moments puis ça nous remet un peu en...
Oui, mais moi j'ai déjà entendu que tout le monde, à un moment donné ou à l'autre, va avoir la nostalgie de l'enfance, peut-être ouais. surtout à Noël, par exemple.
Ouais, par exemple. Ouais.
On se rappelle de nos Noëls d'antan. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle « Nostalgie des vacances d'antan », c'est écrit par Mme Colline Vasquez, qui est journaliste indépendante. Et elle va nous en parler justement de la nostalgie des vacances. Pour la famille M, tous les étés, c'était le Portugal dans la petite ville de Tire. Des vacances qui ont marqué Sandy, aujourd'hui âgée de 30 ans, qui en parle toujours avec la même nostalgie. Elle nous dit « ça met du baume au cœur ». Ça, c'est Sandy qui parle. En se remémorant, ces mois d'été passés au Portugal. Chaque début août, toute la famille M embarquait à bord de la Volvo grise et traversait la France puis l'Espagne jusqu'à Tire, un petit village situé dans la municipalité de Casquet, sur la côte ouest du Portugal. Cette année, cette Parisienne, serveuse dans un restaurant, a travaillé tout l'été. Elle nous dit « moi, je pars en octobre ». Alors, pour que le temps passe plus vite, Sandy convoque parfois les nombreux souvenirs du Portugal, comme pour faire revenir un temps qui n'est plus. Elle dit « je suis quelqu'un de très nostalgique ». Elle nous dit cela avec un large sourire. La nostalgie, c'est une forme de souffrance. La souffrance de ce qu'on a perdu, mais dont on a plaisir à se souvenir, explique José Pollard, qui est un psychologue et psychanalyste et qui s'est beaucoup penché sur ce sentiment. Doux, amer, comme il le qualifie. Il nous dit que c'est un travail psychique pour retrouver un temps passé alors qu'on est dans le temps présent. L'effort qui est demandé, c'est de revenir à la réalité. Mais le psychologue tient à insister sur un point. Il nous dit que ce n'est pas négatif, c'est même plutôt bon signe. Il y a de la nostalgie parce qu'il y a eu du plaisir. Si on est nostalgique de nos vacances, c'est qu'elles ont été bonnes. C'est un mal pour un bien. On a donc plaisir à s'en souvenir, comme Sandy, intarissable dès qu'il s'agit de parler du mois d'août. Elle attend toujours avec impatience de retrouver l'air marin et le calme de Tire. Chaque année, Sandy partait avec ses parents, ses grands-parents, sa grande sœur et son grand frère. Si devant la famille, elle se tenait à carreau, dès que sa mère avait le dos tourné, elle en profitait pour faire les 400 coups avec sa cousine, avec qui elle n'a que 3 ans d'écart. Chaque année, les deux copines se retrouvaient et l'été devenait vite le temps des amours et des rencontres. Mais je m'arrête ici et je poursuivrai plus tard dans l'émission.
Oui, à l'Espresso allongé, la nostalgie à Folie douce demeurait des nôtres.
Chroniqueur en santé mentale s'exprime sur les ondes de Folie douce.
C'est avec bonheur que je reçois Bernard Saunier. Bonjour Bernard.
Salut Yvan.
Salut, bienvenue encore une fois à l'émission. Tu as assisté à un événement pas si longtemps, en fait en octobre 2019, je pense.
Exactement.
Un forum. Hein,
C'est le forum adulte et santé mentale en vue d'une consultation pour le prochain plan d'action en santé mentale.
Oui, le plan d'action qui en fait, qui se termine en 2020,
termine,
là,
c'est ça.
Fait que c'est, dans le fond, ils vont par 5 ans. Le dernier, on l'avait entendu longtemps. Je pense
c'est
que
ça.
C'était un peu souvent des critiques qui disaient que le gouvernement avait comme attendu, je pense, une période de 5 ans. Donc, ils veulent préparer le prochain.
Ouais.
Le plan sert à, finalement, à avoir une direction, c'est ça?
Oui, une direction. Ce que j'ai entendu là, moi, c'est que Mme McCann, qui est la ministre, elle veut faire des gros changements. Elle veut faire des gros changements dans tout ce qui est santé mentale.
Okay.
C'est la palette est large, là, ça part du suicide aux enfants, parce qu'il y en a eu un aussi pour les enfants.
Puis toi, tu étais invité comme finalement pour participer.
Moi, j'étais invité pour participer. Et la très chère amie Annie Baudin qui avait donné mon nom. Puis j'ai dit, cette année, je fais pas de voyage. J'ai dit, je vais aller à Québec au...
C'est déjà pas pire. Ça change d'air.
Je vais aller à Québec au forum.
Oh, ouais.
J'ai trouvé ça assez extraordinaire.
C'était quoi, sur une couple de jours, ça se passait?
C'était sur une journée et demie.
OK.
Puis c'était... On était une dizaine autour d'une table, puis on faisait des brainstorms, des remue-ménages.
Ouais, ouais.
Puis on essayait de trouver...
un peu le sur, ben, peut-être sur une thématique, quoi. On voit ce qu'on voulait vous proposer un sujet.
Comme là, au début, il y a eu un panel, puis les gens parlaient de leur expérience, il y avait même des gens que tu as reçus en t'avais invité.
Ouais.
Puis les gens parlaient de leur expérience en santé mentale, par où ils étaient passés, puis où ils étaient rendus. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde là-dedans qui parlait de rétablissement.
Ouais.
Ce que j'ai trouvé, c'est que oui, ça parlait de rétablissement. Il y a tout le côté financier de l'affaire.
Ça passe par ça depuis toujours.
Ça passe par ça, mais là, la ministre, ça semble pas avoir augmenté. Elle a parlé de 20 millions, mais c'est l'enveloppe qui est là.
Oui, c'est ça. Parce qu'on en dit beaucoup de bien, là. C'est sûr que c'est un assez nouveau, assez récent de gouvernement. Disons, ça fait pas 10 ans que le gouvernement est là, puis ça fait pas 10 ans qu'elle est ministre, là, non plus.
Oui.
Mais depuis ses débuts, je pense que le milieu, en général... dit beaucoup de bien de la ministre. J'imagine
Je pense que c'est une personne honnête puis qu'elle dit ce qu'elle pense.
Les actions sûrement vont suivre en conséquence.
Parce qu'elle a dit que ça allait changer. Là.
C'est ça.
Elle veut que ça change. Là, je me rappelle plus combien de suicides par jour au Québec.
C'est trois par jour. Ça a toujours comme stagné un peu à ce niveau-là.
C'est comme trop déjà. Un, c'est trop, comme on dit. Là.
Moi, c'est surtout les structures. Ce que j'ai remarqué avec nos années, là, ça fait quand même plusieurs années qu'on suit le domaine de la santé mentale. Puis les structures, tu sais, la régie de la santé, l'agence, après ça, le CIUS.
Oui,
ça. J'espère juste qu'on va pas retomber encore dans une espèce de restructuration. Parce qu'on a l'impression que souvent que. Il y a beaucoup de restructuration, puis au bout de la ligne, oui, il y a une certaine amélioration, mais est-ce que les services aux gens...
Faut que ça soit tangible, faut que ça...
À part changer les noms, puis
les structures... À part changer les noms, il faut que ça amène quelque chose. C'est pour ça que je parle souvent d'argent, moi.
Oui, puis il faut
parce
en parler,
que
là.
C'est ça, dans la guerre.
Faut pas avoir peur du foin, comme on dit, comme
c'est ça. Si tu veux mettre des ressources à quelque part...
C'est beau le bénévolat.
Le
là,
bénévolat.
Tout le monde en
ça.
A fait. Puis tout le monde
Je parlais avec M. Morin. Je ne sais pas si tu
oui,
le connais.
Oui, je connais.
Paul Morin.
Oui, je connais. Ouais.
Je parlais avec lui. Puis c'est ça que j'y expliquais que quand on participait à reprendre le pouvoir, quand on participait à des comités puis des implications en santé mentale, on demandait un dédommagement. Lui, il semblait me dire ben, que ça n'avait pas trop de bon sens parce qu'à ce compte-là, il faudrait peut-être payer les parents partenaires, les parents ou les...
Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Puis pourquoi pas aussi?
Non, mais ils apportent un... Le input, là, qu'on appelle, ouais. Là, ils apportent de l'eau moulin, là,
oui,
pour la réflexion, puis le... Hein, c'est ça?
Pourquoi, c'est
pourquoi
ça,
les consultants sont payés?
C'était ça que je savais comme réponse aussi. Je dis pourquoi pas? Pourquoi qu'ils ne feraient pas?
Vous êtes des consultants.
On est des consultants, c'est
on vous
ça. On nous consulte, puis je trouve ça...
Moi, je trouve que tu fais bien d'en parler, parce que les gens ont peur de parler de ça, mais à quelque part, ça passe par ça pareil.
Ça passe par ça, ne serait-ce que moi, personnellement,
ouais.
Je ne suis pas riche.
Ben non. Puis ça,
il y a personne de riche, puis si... Ça aussi, c'était étonnant dans les 250 personnes qu'il y avait là, des entendre parler. Je suis pas le seul à parler de ces choses-là,
ouais.
Comme ça, de dire que oui, on reçoit une aide, oui, on a... Mais si on est capable d'en avoir plus un peu, pourquoi nous l'enlever?
Bien, c'est comme le milieu communautaire. Ça fait depuis toujours que le milieu communautaire dit toujours n'a pas assez de ressources. Puis c'est vrai, l'ensemble des ressources n'ont pas assez d'argent pour fonctionner correctement. Et comparativement à l'argent qui est donné aux hôpitaux et aux médecins,
effectivement,
c'est un minime pourcentage.
Il y avait un médecin qui disait que c'était le parent pauvre des pauvres.
Ouais, ouais. Ben déjà que la santé mentale, c'est le parent pauvre de la santé.
Exactement. La santé mentale, c'est le parent pauvre de la santé.
Mais les gens qui s'impliquent, c'est le parent pauvre du parent pauvre.
Ouais,
c'est un peu ça. Puis c'est vrai. On en rit, mais c'est vrai.
Et puis c'était étonnant parce que je parlais de avec quelqu'un, puis à un moment donné, un monsieur qui arrive, il dit, ah, il dit, c'est la première fois que j'entends parler de ça, les patients partenaires.
Puis, ouais.
Des fois, on a comme a priori de penser que tout le monde connaît tout.
Ouais.
Puis le monsieur, il avait déjà un petit
peu. Ça s'est jamais à peu près diffusé, cette affaire-là. T'sais, non, nous, on en a entendu parler parce qu'on.
On
nous en parle.
J'en parle, puis on est un peu. De,
on par, est branché
par la,
dedans.
Par la force des choses. Ouais, hein. Moi, je suis là-dedans.
C'est ça, c'est ça. Mais effectivement, tu as raison, puis ça a été longtemps. Oui, il y a eu des demandes, de dire augmenter, par exemple, le financement, mais c'était plus général. Mais là, on parle de quelque chose de concret. Vous êtes des personnes, vous donnez votre input, encore une fois, à des réunions qui amènent sûrement à des meilleures pratiques et tout ça, bien, quelque part, puis c'est un dédommagement, là, vous ne faites pas des salaires.
Oui, c'est ça, c'est pas
pour dédommager l'implication. C'est encourageant.
Là. Oui, c'est encourageant, c'est ça. Ce que j'ai trouvé étonnant aussi, c'est toujours cette histoire-là du patient qui se fait soigner, mais les gens, il y a une grande souffrance là-dedans parce que la personne se fait soigner, mais finalement, les soins ne marchent pas, puis elle finit par mettre fin à ses jours.
Oui, oui.
Puis les gens aimeraient en savoir plus, puis avoir été plus impliqués. Mais moi, dans mon innocence, je leur ai dit, ben des fois, la famille, c'est pas toujours.
Supporte pas toujours comme il devrait le faire.
C'est ça.
Développe aussi.
C'est pas toujours approprié d'impliquer la famille dans les soins.
Oui. Mais je sais que.
Ça fait partie du problème.
Dans ce sens-là. Mais je sais qu'il se passe beaucoup de développement. Tu sais, comme quelqu'un me parlait récemment qu'ils sont en train de développer un genre de recherche pour savoir mieux gérer quelqu'un qui a un signe suicidaire, puis tu sais, qui t'extrait quelqu'un, comment il se fait répondre. Tu sais, il y a un programme qui est financé, je pense, par Belcause, la représentante de Belcause, qui me disait ça, qu'ils ont financé une recherche pour nous permettre de mieux réagir à des gens, justement, qui sont en crise, qui sont sur le point de se suicider.
Oui.
Puis là, quoi faire pour les empêcher,
c'est ça.
Par les technologies. Tu sais, fait qu'il y a toutes sortes de façons. Tant qu'on peut avancer,
aussi
au
forum, il parlait de l'accès justement aux psychothérapies
qui
devrait être gratuite. Mais en y pensant bien, je me suis toujours dit, la vieille école de psychothérapie, il faut que tu payes.
Ouais.
Si tu payais pas, ça valait. Je parle un peu, c'est un peu plus psychanalytique cette idée-là, là, mais si tu payes pas, c'est pas efficace. Je sais pas.
Puis il y a des choses qui avaient été annoncées par le docteur Barrette. Là, un certain nombre d'heures, tout ça, mais même ça, on disait que c'était pas suffisant parce qu'un psychothérapeute, quelqu'un qui va voir un professionnel, ça va y prendre plusieurs séances.
Ben oui, c'est long avant de créer un contact, une confiance.
C'est ça. Parce que ça fait partie du rétablissement. La médication, c'est une chose. L'entourage, l'environnement, la psychothérapie ou l'aide d'un psychologue, tu sais, peu importe. Ouais. Mais c'est un tout. Mais je voulais te demander, Bernard, dans des forums comme ça, j'imagine que tu en profites aussi pour peut-être reconnecter avec des gens parce que...
Oui, je parle avec ben du monde.
C'est bien de savoir
c'est
que...
C'est toujours bien. Puis ce qui m'a ramené beaucoup, c'est d'entendre les autres parler puis d'avoir un peu les mêmes propos que je peux tenir.
Ouais.
Je me suis dit que je suis pas tout seul.
C'est ça, exactement.
Il y a d'autres mondes qui pensent à la même chose que moi puis qui le disent.
Ça a du bien de pouvoir se rencontrer
pour se reconnaître. Puis j'ai vu des patients partenaires, des parents
des gens d'un peu partout qui venaient.
Des gens d'un peu partout dans la province, c'est ça. Ce qui n'est pas étonnant, mais vraiment bien, c'est de voir les Amérindiens qui étaient là, les Autochtones, les Inuits, les Abénakis. Il y avait des représentants de chaque nation.
On s'en est moins occupé, ou en tout cas, paraît moins. Fait que je pense que.
Je trouvais ça intéressant qu'ils soient là.
Des personnes à part entière.
Leur mot à dire.
Oh, oui, c'est ça. On est tous des Québécois, incluant surtout eux, là, les Autochtones.
C'est important.
Absolument. Non, c'est intéressant. Donc, le Forum adulte et santé mentale. Donc, la suite, c'est vraiment de donner de l'information, de participer pour que le ministère, la ministre.
Ils ont noté des choses qui se disent là.
Est-ce que tu sais si le plan d'action devrait faire. devrait sortir, genre, ça va-tu être un 2020-2025 ou est-ce qu'ils en ont parlé?
Je pense que c'est un 2020-2025.
Parce que le dernier, c'était le 15-20, dans le fond. Puis là, on veut pas qu'il y ait d'espace entre les deux, deux plans, parce que c'est jamais bon. Là, sur papier, on a des choses. Il faut voir aussi si le 2015-2020 a été mis en place ou non, partie peut-être, mais il faut voir. Il nous reste peut-être une minute, Bernard. On peut toujours. C'est intéressant toujours de te suivre. T'es très prolifique sur le web depuis longtemps, d'ailleurs. T'es un des premiers à bloguer.
Je vais le présenter, d'ailleurs, le 14, ceux qui viennent à l'Institut.
OK, tu vas présenter ton...
Je vais présenter mon blog.
OK, OK.
Qui est au www.legoulag.blogspot.com /.
C'est ça. Ou sinon, chercher Bernard Soignier, Goulag.
Vous allez me trouver.
C'est ça, ça se trouve. J'ai même fait récemment, puis ça rentre. Ça va très bien. Non, c'est très intéressant de t'avoir encore une fois. Puis écoute, ça va être pour une prochaine encore. On va sûrement remettre ça pour un autre bon sujet. Merci.
OK, je te remercie.
Merci, Bernard. À bientôt. Bye. Au revoir.
Marley, t'as jamais l'air comme si tu t'ennuies. Ton téléphone éclaire ce que tu enfouis. À ton affaire en high def, tu t'enfuis. Smoke screen, jolie, holy. J'ai des billets verts et j'attends ta mise en pli. Glow stick dans tes artères jusqu'à minuit. Tu danses en enfer, mon petit biscuit. Endormi, pretty, sous la tête de ma mère. Insoumis, j'en suis fier. La folie est le père. La police légifère. J'ai renfermé. On se croirait dans un opéra, pédale pas le mal, break syndical, regarde la caméra, j'écoute pas quand tu parles. Violence est au centre de ma vie. J'en fais jamais autant que ce que j'en dis. Et j'en ris. Sorry, grandi. Sans conséquence, c'est ce qu'on m'a appris. Je suis un intouchable façon dandy. À fleur de peau, les nerfs dans un grand bruit. Faut que la mort vive, galerie. VIP Cadillac. Boys Club, Body Snatch. One pack cigarette.
De retour à l'équipe de Folie Douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale.
De retour au micro, donc, avec l'espresso allongé et la nostalgie, sujet entamé plus tôt. On a hâte d'en savoir plus sur ce sujet qui touche quand même tout le monde. Je pense que tout le monde est touché par ça.
J'imagine que oui.
Un jour ou l'autre.
Alors, je rappelle les auditeurs que l'article que j'ai pris sur Internet s'appelle « Nostalgie des vacances d'antan ». C'est écrit par Mme Colline Vasquez, qui est une journaliste indépendante. Et là, on ne parle pas de sa personnalité, là.
Non.
C'est une journaliste indépendante.
Elle est juste indépendante de métier.
Oui.
Dans la vie, elle n'est pas du tout indépendante.
Alors, j'avais commencé tantôt en disant que pour notre amie Sandy, qui est âgée de 30 ans maintenant. Elle est nostalgique de ses vacances d'été au Portugal. Elle s'y rendait chaque année avec sa cousine, avec qui elle avait seulement trois années d'écart. Elle disait... chaque année, les deux copines se retrouvaient et l'été devenait vite le temps des amours et des rencontres. Elle dit, on disait qu'on allait à la plage, mais en fait, on allait voir des garçons. C'était mes premiers flirts, mes premières amourettes. On passait la nuit dans les discothèques de la plage, lâche-t-elle en baissant la voix comme si c'était encore un secret. Pour Sandy, le souvenir de ses vacances est irrémédiablement associé à celui de sa cousine, mais surtout à un sentiment de liberté, jamais retrouvé pendant l'année. Rien de plus normal pour José Pollard, selon qui la nostalgie des vacances naît en grande partie dans cette insouciance d'un temps sans contraintes et sans impératifs. Il nous dit que ça rappelle l'enfance en quelque sorte. Difficile alors de refouler une larme quand vient la fin de l'été. Cette tristesse propre à la nostalgie est la conséquence du plaisir qu'on y a ressenti. Monsieur Pollard continue en disant « Chacun d'entre nous passe par ce petit moment de dépression qui n'est pas grave, mais qui nous saisit quand on revient à son quotidien. On ressent une sorte de petit désenchantement. Il faut alors se souvenir de ce qu'on a vécu, tout en réinvestissant le temps présent. » Mais pour Sandy, les retours aussi étaient difficiles. Elle dit « Je n'avais pas hâte de rentrer, car je savais que j'allais devoir retourner à l'école, retrouver ma vie à Paris. » Pour moi, c'était la même chose. Ouais. Tu sais, quand les voyages d'été étaient finis, puis on retrouvait notre chez-soi, il y avait de la tristesse.
Il y a un côté intéressant, mais en même temps, on sort d'une bulle. Il y a une bulle, hein, puis on ne veut pas que cette bulle-là cesse. Ouais.
C'est vrai, Sandy continue en disant, « Dans notre appartement, je partageais ma chambre avec ma sœur. Alors, quand j'étais dans la maison au Portugal, c'était le rêve, car j'en avais une pour moi toute seule, insista-t-elle. Elle dit, « Je savais déjà que ce pays allait me manquer. » José Pollard nous dit « À l'origine, la nostalgie a été définie par un médecin suisse comme un trouble psychiatrique, une dépression due au mal du pays. Il avait observé chez des soldats souffrant de vivre loin de chez eux. D'ailleurs, nostalgie est la contraction du préfixe « no », N-O-S, qui signifie « revenir » et « agi ». A-G-I-E, la douleur. Le mot a ensuite été investi par le courant littéraire du romantisme et est devenu ce pourquoi nous l'employons aujourd'hui. Un sentiment, une émotion. M. Pollard nous dit « De rares personnes n'arrivent pas à revenir dans le présent qui leur est devenu insupportable. » Ça, c'est vraiment des cas là, de grande tristesse.
Ouais.
Et si le retour au quotidien est difficile, ce dernier reprend rapidement ses droits. Même si au début, nous dit Sandy, j'étais un peu ronchon, ça finissait par passer. Surtout parce que je savais qu'on allait y retourner l'été d'après. Une consolation qui lui permettait d'attendre les 11 mois qui la séparaient du Portugal. On finit par s'y faire, résume José Pollard. Et pour vaincre la nostalgie, rien de mieux que de ressortir les objets ramenés de ce paradis perdu. Ils sont porteurs de cette nostalgie, car ils sont les témoins de ce qu'on a vécu et nous permettent de nous replonger dans nos souvenirs. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, toi, mais aller fouiller dans des anciens sacs de voyage qui contiennent des souvenirs de vacances.
Pas vraiment.
Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire.
Ouais. Ça éveille un peu de nostalgie.
Ah, beaucoup. Ouais.
Non, j'ai jamais vraiment fait ça.
Alors, on nous dit, mais pour certaines ou certains, se remémorer devient une épreuve. De rares personnes n'arrivent pas à revenir dans le présent qui leur est devenu insupportable. Elles ne parviennent pas à sortir de la rêverie et à faire la transition avec le passé. Alors, elles se réfugient dans leurs souvenirs et désinvestissent complètement leur quotidien. Si ce phénomène dépressif est très peu fréquent, nombreuses et nombreux sont ceux qui, la nostalgie devenant trop douloureuse, décident de ne pas revenir au temps présent. Une situation que le psychanalyste a eu l'occasion d'observer. M. Pollard nous dit « Quand le retour de vacances est marqué par une très forte nostalgie, on peut être amené à remettre en question le sens de sa vie ou de son travail, par exemple. J'ai vu des gens changer de travail, changer radicalement leur façon de vivre après leurs vacances, dont ils n'arrivent pas à faire le deuil. J'y ai déjà pensé, confie Sandy en riant. Elle raconte qu'à 17 ans, elle a annoncé à sa mère vouloir rester au Portugal. Et dans ses mots, pour ouvrir un kebab ou un fast-food. Une idée vite oubliée. Mais je vais sauter.
Et probablement que si elle avait fait ça, elle serait rendue compte que la vie quotidienne, c'est pas comme la vie de vacances. C'est ça aurait peut-être cassé aussi sa bulle chez certains points.
Oui. Je saute à la fin de l'article parce que Sandy a finalement retourné au Portugal avec sa cousine. Et elles sont retournées au Portugal seulement toutes les deux, comme dans le passé. Presque sans y croire, Sandy explique « Inconsciemment, je suis retourné dans tous les endroits où j'allais avec ma mère qui était maintenant décédée. J'ai reproduit nos rituels et en même temps, je lui racontais des anecdotes sur mon enfance et ce que j'ai pu faire là-bas. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière. Je suis quelqu'un de très nostalgique. » Je m'arrête là-dessus et le titre de l'article, c'est « Nostalgie des vacances d'antan ».
De qui, déjà?
De Mme Colline Vasquez.
Ben, voilà, pour lire la suite. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. À Folie douce.
Je t'ai acheté un autre dauphin à la boutique de Bibelot. C'était le plus éclatant du magasin, comme une étoile qui sort de l'eau. Il n'y en a pas d'autres animaux qui soient aussi impressionnants. Il n'y en a pas d'autres qui sautent aussi haut, en étant aussi intelligent. Je l'ai mis dans ma garde-robe avec les autres. Je l'ai mis dans ma garde-robe. Tu m'as acheté des souvenirs. C'était la plus élégante, c'était comme si elle voulait venir me dire que si ensemble les narvals et les chevaux faisaient des licornes en s'accouplant, on pouvait toujours faire quelque chose avec les amours différents. Tu l'as mise dans ta garde-robe avec les autres. Tu l'as mise dans ta garde-robe. Mais ce qu'on cache un jour débarque, à force d'emplir les garde-robes, alors j'irai devant ta porte dans une scène de nature morte. Des fourrures de Shanghai, des tapis de Sheikh, des fruits exotiques et du steak. Et derrière, sur un piédestal, à la fin de la scène finale, mon sac est plein jusqu'à la bord de dauphins multicolores. Et à la fin, les
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. On va faire, bien sûr, comme à notre habitude, de la nomenclature des chansons. Pierre, oui. Les chansons qu'on a écoutées cette semaine, on a écouté Robin et Bois.
De Émile Bilodeau.
En début d'émission, on a pu entendre Déjà Venise.
De Clio.
Dans la deuxième demi, Molly.
De Mehdi Cayenne.
Et à l'instant, Les Dauphins et les Licornes.
De Les Trois Accords.
Voilà, qui dure, ce groupe-là, finalement. Ça, oui. C'est toujours étonnant. Hein? C'est, oui. On n'aurait pas dit ça dans leur début, qu'il allait durer tant que ça. Alors, merci pour le choix musical et merci pour ta mise en onde.
Bienvenue.
Et merci pour ton espresso est allongé où tu nous as parlé de la nostalgie avec plusieurs des beaux souvenirs en fait qui nous ont peut-être réveillé de la nostalgie en nous aussi. Je remercie notre invité en début d'émission aussi, Mireille Bédard, qui nous a fait découvrir le Recovery College, et notre collaborateur Bernard Saunier qui nous a parlé du forum adulte et santé mentale auquel il a assisté récemment. Alors c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.